traditionnelle. Vous allez voir que la société a évolué et il va nous accompagner pour la comprendre au mieux. Une émission qui nous concerne tous. À tout de suite sur RTL.
Suite, Faustine.
Protéger la santé des salariés peut être un levier de performance pour les entreprises. Alors restez à l'écoute d'RTL pour découvrir le mouvement de l'éco-santé pour agir plus tôt, plus vite et autrement avec Harmonie Mutuelle.
RTL, il est 20h. Toute l'actualité avec Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
Bonsoir Yves, bonsoir à tous. Au quatrième jour d'escalade, Israël continue à frapper l'Iran ce soir. Plusieurs explosions ont été entendues dans la capitale iranienne. Le bâtiment de la télévision d'État a été touché par une frappe. La présentatrice a même quitté le plateau en urgence. On compte 224 morts côté iranien, 24 côté israélien. La population de Téhéran fuit les grandes villes et le pays est à l'arrêt, comme le raconte Aïda. Elle est guide touristique à Isfahan.
La situation affecte notre vie quotidienne. La connexion Internet, par exemple, est très très mauvaise. Nous sommes inquiets. Les entreprises ont toutes fermé. Et toutes les nuits, on essaye de suivre les nouvelles, car on ne peut pas dormir lorsque les missiles tombent. Beaucoup de gens quittent Téhéran. Parce qu'avec toutes les infrastructures et toutes les installations qu'il y a là-bas, ça peut être un vrai désastre. On ne peut pas être en sécurité là-bas. Les autres villes, elles ont décidé d'ouvrir les maisons pour accueillir les habitants de Téhéran, justement.
Un témoignage recueilli par Valentin Boisset pour RTL. Pas question de reculer ce soir pour Israël. Le premier ministre israélien Netanyahou assure que tuer l'ayatollah Khamenei mettrait fin au conflit. L'Iran, de son côté, s'adresse directement aux États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères estime que s'il le voulait, Washington pourrait arrêter la guerre en un coup de fil. Également à retenir ce soir, avant même la fin du conclave sur les retraites, François Bayrou propose aux partenaires sociaux une solution, une prime pour maintenir les seniors en emploi. Selon lui, il s'agirait d'un encouragement à l'activité qui pourrait faire changer le pourcentage de personnes restantes au travail et donc qui changerait l'équilibre financier du système de retraite. Et puis MaPrimeRénov' est finalement maintenue en partie. Le dispositif d'aide à la rénovation énergétique pourra être utilisé pour les travaux isolés, la pose d'une chaudière ou de fenêtres par exemple. Rétropédalage du ministère du Logement après un fort mécontentement de la filière du bâtiment. La météo, demain le temps sera très ensoleillé sur toute la France. Petit risque d'averse sur les Pyrénées, les Alpes du Sud et le relief Corse en fin de journée. Le Mistral va faiblir dans la vallée du Rhône. Les températures, le matin comptez de 11 à 14 degrés en moyenne, de 15 à 20 près de la Méditerranée. L'après-midi, vous aurez de 19 degrés pour la minimale sur les bords de Manche à 29 degrés dans le sud. L'arrivée du Quintet Plus, il fallait jouer le 8, l'As, le 4, le 13 et le 3. Et puis les courses, demain à Nantes, les pronostics de Dominique Cordier. Le 5, le 3, le 16, le 2, le 10, le 12, le 7. Et l'outsider de RTL, c'est le 10, Septimus. RTL, il est bientôt 20h03. Tout de suite, Héros, avec Faustine Bollard.
RTL.
Bonne soirée sur RTL. Héros.
20h, 21h, Héros.
Faustine Bollard sur RTL.
Bonsoir à tous et bienvenue sur RTL. Héros, vous le connaissez maintenant, c'est votre rendez-vous chaque soir à 20h sur RTL, rtl.fr, mais également en podcast. On va parler sexualité aujourd'hui, qui est un sujet intime, qui fait parfois rougir, murmurer et même se taire, malheureusement. Pourtant, elle nous concerne tous, de près ou de loin. Et quand les choses se compliquent dans l'intimité, vers qui se tourner? Ce soir, nous allons mettre en lumière un métier souvent méconnu, mais crucial, celui de sexologue. Notre invité, le docteur Patrick Papazian, a consacré sa carrière à aider ceux qui font face à des difficultés sexuelles. Son engagement et son expertise font de lui un véritable pilier pour de nombreuses personnes et parfois même, il change des vies. Bienvenue sur RTL, tous les soirs à ce micro. Nos héros, c'est vous. Bonsoir docteur Patrick Papazian, merci d'être avec nous.
Bonsoir, merci à vous.
Je suis ravie d'être avec vous, sachant que je vais tout de suite vous poser une question. C'est quoi la différence entre la sexologie et la sexothérapie ?
Alors, la sexologie, en fait, c'est plus large, on va dire, et ça englobe la sexothérapie. Ça comprend, la sexologie, tout ce qui va être pris en soin des problèmes affectifs ou sexuels d'un individu. Un des outils de la sexologie, c'est la sexothérapie qui va plus reposer sur de l'entretien, un peu en mode psychothérapie.
D'accord. Vous prenez aussi en compte et en charge, j'allais dire, la mécanique presque.
Exactement.
D'accord,
En tant que médecin de formation, tous les aspects physiologiques, anatomiques, tout le contexte médical vont m'intéresser. Là où la sexothérapie va simplement, mais ce qui est déjà très bien, intervenir sur l'aspect plus psychologique.
Très bien. Est-ce que la vie sexuelle des Français se porte bien ?
Globalement, il y a des signaux un peu inquiétants. On a une enquête, la récente, de l'INSERM qui est sortie, ces grandes enquêtes sur la sécurité des Français qui nous intéressent, où on voit que les Français sont à la fois moins actifs dans leur vie sexuelle, un tout petit peu moins satisfaits, et puis pour certaines tranches d'âge, notamment les jeunes, un peu frileux de se lancer ou de vraiment passer à l'acte dans la réalité, je dirais.
Alors, les jeunes, on y reviendra, les seniors aussi, mais comment vous l'expliquez alors que, selon vous, en tout cas, qu'on fasse moins l'amour, on fait moins l'amour qu'avant ?
On fait moins l'amour, je pense qu'il y a tout un tas de raisons, on peut peut-être déjà en citer deux, c'est l'actualité anxiogène. Oui. On vit quand même dans un monde hyper angoissant de toutes parts, on est bien placé dans les médias pour le savoir, je veux dire, il y a rarement des bonnes nouvelles. Donc, la planète qui va s'écrouler, la politique, et j'en passe. Donc ça, on sait que ça a un impact direct sur le désir, la libido, et donc après sur le fait de faire l'amour ou pas.
Ouais.
Ensuite, on peut penser aussi globalement au vieillissement de la population, on en reparlera, mais qui fait que mécaniquement, du coup, on peut peut-être un peu moins faire l'amour. Et puis, au fait que la sexualité, elle est un peu omniprésente, à travers notamment la pornographie, ou même dans les paroles, on en parle beaucoup, on n'en parle pas toujours bien, mais du coup, ça n'entretient pas ce petit mystère qui est important pour désirer. On ne peut pas désirer quelque chose qu'on vous présente en permanence.
Ça, c'est une problématique qui concerne beaucoup les jeunes aussi, qui ont accès de plus en plus tôt à la pornographie.
Alors, les jeunes
ne savent pas faire l'amour autrement.
Voilà, sont particulièrement exposés, parce qu'en plus, ils n'ont pas d'autres référentiels, ils n'ont pas de l'expérience ou parfois même un passage dans la vraie vie pour relativiser tout ça. Ouais. Là où les adultes, finalement, qui consomment de la pornographie, vont pouvoir, pour certains d'entre eux, j'espère beaucoup, faire un peu la part des choses entre ce qui est de la fiction et ce qui est la réalité d'une vie sexuelle.
Alors, on va revenir sur les problématiques de toutes les générations, mais d'abord, vous, en tant que sexologue, quelle est la première consultation qui vous a le plus marqué ?
Il y en a beaucoup. Si je dois en citer une, je pense à ce jeune couple que j'avais reçu en tant que jeune sexologue qui avait, on va dire, un niveau d'éducation tout à fait élevé. Ils avaient fait des grandes études tous les deux et ils venaient me voir parce qu'ils n'arrivaient pas à faire d'enfants. Au bout de 6 mois d'essai, on va dire. Donc, j'étais pas très inquiet, c'est quelque chose d'assez classique.
Mais ils viennent vous voir en tant que médecin ou ils viennent vous voir en tant que sexologue ?
C'était en tant que médecin.
Médecin généraliste.
Voilà. Et du coup, avec ma casquette de sexologue, évidemment, j'essaye d'investiguer un peu ce côté-là, de comprendre ce qui se passait. Je les rassure aussi beaucoup sur le fait que c'est pas on-off et que c'est pas parce qu'on arrête la pilule qu'on va tomber enceinte tout de suite. Voilà. Mais quand même, j'essaye un peu de creuser sur le plan de la sexualité. Il y a rien qui venait et du coup, j'étais un peu embêté, parce qu'à l'époque j'étais jeune sexologue, donc je me disais mince, j'ai dû rater un truc. Donc j'en parle à une collègue qui me dit, mais reprends à la base, dis-leur vraiment de te décrire comment ça se passe très concrètement, s'ils sont prêts à le faire. Et donc quand je les revois, c'est ce qu'ils font, et ils me décrivent leur passage à l'acte sexuel, si je puis dire, et je comprends qu'en fait il y a bien des préliminaires, pénétration, mais qu'après la pénétration aucun des deux ne bouge en fait, et que les deux attendent que ça vienne. Et c'est que quand je leur ai posé la question de « mais concrètement, en termes de mouvement, est-ce que ça se passe bien ? Vous y prenez du plaisir ?» Et ils m'ont regardé avec des grands yeux, genre « mais des mouvements, mais ça va pas, non ? Enfin, pas de mouvement, non. On attend que ça vienne. » Et donc, j'ai compris qu'en fait, l'homme n'éjaculait pas, bon, que la femme n'avait évidemment pas trop de plaisir dans ce contexte-là, et ils attendaient que ça leur tombe dessus, si je puis dire.
Qu'est-ce que ça dit, cette anecdote de notre rapport collectif à la sexualité ?
Que tout est représentation et croyances. En fait, ils avaient très bien compris comment on faisait des bébés, ils avaient bien suivi leur cours de biologie au lycée, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais simplement pour eux, les mouvements c'était associé à de la pornographie, c'était sale, c'était dégradant. Un humain ne bouge pas en faisant l'amour, c'est les animaux qui font ça. Et c'était des représentations très ancrées, liées à leur éducation, à leur culture, à des choses qu'on leur avait transmises depuis sans doute l'adolescence. Aussi sans doute à un défaut d'éducation sexuelle, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'ils ne savaient pas sur l'anatomie, la physiologie. Donc, on a sorti les planches, on a fait des dessins, on a expliqué, on a fait de l'éducation sexuelle en consulte.
Ça vous a fait sourire ou ça vous a plutôt inquiété en tant que sexologue ?
Ça m'a ému. En fait, ça m'a ému de penser que ce couple...
Ils ont eu un bébé vide derrière ?
Ouais, absolument.
Vous allez le faire pas ?
Mais complètement. Ils ont eu la gentillesse de me tenir au courant. Et en fait, ça m'a beaucoup touché parce que je me suis dit, décidément, il y a cet énorme fossé entre ce qu'on projette sur les patients. On se dit, bah oui, ces patients, voilà, ils ont fait des hautes études, tout va bien pour eux sur ce plan-là, ils vont quand même pas avoir de telles carences. Et en fait, la réalité des choses et leur représentation à eux. Et ça, je crois que ça m'a servi de leçon pour le reste de mon activité de sexologue, c'est toujours se méfier de ce qu'on projette sur une personne qu'on a en face de soi. Je dirais même pour le fait d'être un être humain, tout simplement, ça m'a servi.
Alors, on va rentrer dans quelques instants dans votre cabinet, puisque vous sortez un livre qui parle de toutes ces anecdotes. On va s'intéresser donc à la sexualité dans le couple, la sexualité des jeunes, la sexualité aussi de personnes qui peuvent connaître la maladie, c'est important, la sexualité des seniors, vous êtes tous concernés, à tout de suite sur RTL.
RTL.
À l'écoute des entreprises avec Harmonie Mutuelle. La santé des salariés est un levier de performance. Harmonie Mutuelle a lancé le mouvement de l'éco-santé pour agir plus tôt, plus vite et autrement. Jérôme Decrillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur prévention et services chez Harmonie Mutuelle. Pourquoi cette approche ?
Alors, le mouvement de l'éco-santé, c'est devenir acteur de sa santé. Agir plutôt que subir.
D'accord.
Grâce à la téléconsultation 24 heures sur 24, au deuxième avis médical ou à notre réseau de professionnels de santé, on se soigne plus vite et on dépiste plus tôt.
Et du coup, quels sont les bénéfices concrets pour les entreprises et les entrepreneurs ?
Eh bien, faciliter l'accès aux soins, c'est agir pour des collaborateurs en meilleure forme, ça renforce leur engagement et ça dynamise la performance globale de l'entreprise.
Et comment rejoindre le mouvement de l'éco-santé ?
Rendez-vous sur harmoniemutuelle.fr.
Merci Jérôme.
millions, c'est l'équivalent de la population de Paris, Bordeaux et Lyon réunis. C'est aussi le nombre de personnes dans le monde qui ont choisi Renault Clio depuis 1990. Et ce nombre continue d'augmenter, puisque Clio est la voiture la plus vendue en France en 2024. Renault Clio Génération est en édition limitée des 16 900 €. Portes ouvertes du 12 au 16 juin.
Source Renault, immatriculation mondiale de 1990 à 2024. Source 3 à data janvier 2025. Clio Génération SCE 65 € option. Offre à particulier du 1er au 30 juin selon stock disponible. Voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Cet été, c'est l'Italie, toute l'Italie qui viendra à vous. Grâce à une merveilleuse, une prodigieuse porteuse de lettres. La porteuse de lettres, c'est le roman phénomène de Francesca Giannone. Au cœur des Pouilles aux mille senteurs, aux mille saveurs, l'épopée d'une femme libre qui, par son métier de postière, va se retrouver au centre de toutes les passions d'un petit village. La porteuse de lettres, le roman numéro 1 en Italie, va donner à votre été toutes les couleurs, toute la beauté, toute la passion du mezzogiorno. Un roman Albin Michel.
Après la découverte du feu qui a changé le cours de l'humanité, après la création de l'ampoule électrique et l'invention du télescope, voici probablement la plus grande innovation qui a changé la vie des patrons de PME.
Avec Onto, vous fixez des plafonds mensuels pour chaque carte. Vous êtes notifié en temps réel des dépenses de vos équipes et vous validez leurs demandes en un clic. En bref, vous faites gagner à votre équipe finance jusqu'à 2 heures par semaine en moyenne. Et ça change la vie. Conto. Total Economic Impact, réalisé pour Conto par Forrester Consulting 2025.
Voyage en Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km de paysage, un seul plein et zéro recharge. Le moteur s'adapte entre thermique ou électrique pour 1100 souvenirs. Nouveau Renault Austral Full Hybrid E-Tech des 400 € par mois. 2 mois de loyer offert. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Renault, numéro 1 de l'hybride en France.
Austral Evolution Full Hybrid 200 € option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 5 000 €. Troisième et quatrième loyer offert. SIA Cordiaque. Offre à particulier du 12 au 16 juin. Numéro 1 des ventes depuis 2024. Source 3 à date à mai 2025. Voir Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
RTL.
Vous voulez préparer votre retraite tout en réduisant vos impôts ? Eh bien, restez à l'écoute d'RTL pour tout savoir sur le plan épargne-retraite proposé par Fortuneo.
Faustine Bollard sur RTL.
We can be heroes. Héros.
Nous sommes avec Patrick Papazian, qui est sexologue et qui depuis tout à l'heure nous explique et nous parle de notre sexualité. Vous publiez ce livre aux éditions Opportun, Le Cocker du sexologue au cœur des consultations. Pourquoi il y a un cocker sur la couverture ? C'est qui ce cocker ?
Alors, il ressemble à mon cocker, mais mon cocker est évidemment beaucoup plus beau que le cocker en photo. Et mon cocker n'a pas de lunettes, il a une excellente vue, comme on le découvre dans le livre.
Il est de toutes vos consultations ?
Alors, malheureusement non, parce que j'ai une partie de mon activité à l'hôpital et je ne l'emmène pas à l'hôpital, je ne vais pas jusque-là, mais pour une partie de mes consultations, absolument.
Vous êtes un peu le Michel Drucker des sexologues. En tout cas, s'il pouvait...
J'espère avoir sa longévité.
En tout cas, s'il pouvait parler, voilà ce qu'il nous le raconterait. Quel type de profil viennent vous voir? Plus des hommes, des femmes, des jeunes, des couples?
Alors, vraiment de tout. De tout. En termes de tranche d'âge, je pense que ça va des plus jeunes aux plus âgés. Je me suis vraiment approché des centenaires sur mes patients les plus âgés. Hein, plus de 90, ça c'est sûr.
Qui viennent vous voir d'eux-mêmes?
Qui viennent me voir d'eux-mêmes, absolument. Après, les gens viennent souvent seuls dans un premier temps. Et c'est quand on les invite à venir avec leur conjoint ou leur conjointe qu'ils vont venir en couple.
C'est compliqué, non, d'arriver chez le médecin et tout d'un coup de parler de son intimité, même si on a l'envie que ça aille mieux. J'imagine qu'il doit avoir une ambiance un peu particulière. La première fois qu'on vous voit, on vous connaît ni d'Ève ni d'Adam, et puis tout d'un coup, on parle de l'extrême intimité, quoi.
C'est ultra difficile, mais
ultra
vraiment.
Difficile.
Et c'est ce que je leur dis à chaque fois. Je les remercie et les félicite d'être venus jusqu'à moi, parce que je dis ça. Je sais pas si j'oserais le faire personnellement d'aller consulter un sexo, parce que c'est super dur. Vous devez en quelques minutes switcher sur un mode intime, raconter des choses que vous n'avez pas forcément racontées à qui que ce soit.
À qui que ce soit, voilà, c'est ça.
Voilà.
Et qui vous en parlez même pas forcément
même pas
avec vos partenaires,
non,
voilà, c'est
non,
ça. Ouais.
C'est ça, donc du coup, c'est vraiment dur. Et puis en plus, vous êtes face à un médecin, donc il y a ce côté un peu...
Autorité naturelle,
exactement.
Hiérarchie...
Je me sens, alors, par exemple, pour les hommes, il y a un rapport masculin qui peut s'instaurer, genre, alors lui, forcément, il doit avoir une sexualité géniale, en tant que médecin sexologue...
Du coup, je vous pose la question, est-ce qu'en tant que médecin sexologue, vous avez une sexualité géniale?
Alors, je pourrais sortir le joker de l'intimité, mais je le ferai pas. Non, j'ai la sexualité que je peux, quoi, voilà, comme tout le monde.
Quelle bonne réponse, quelle bonne réponse. Non mais c'est vrai, hein, d'ailleurs on se dit toujours que les nutritionnistes c'est ceux qui mangent le mieux, mais en fait souvent c'est pas le cas. Mais je me permettrai pas de m'intéresser à ça. Quels sont les motifs les plus fréquents de consultation pour les couples?
Alors pour les couples, ça va être l'émoussement du désir.
Ouais.
Ça, on va dire que c'est le premier motif, lassitude. C'est genre, comment ça se fait que la sexualité qui était si bien au début, soit il n'y a plus, soit il y a, mais c'est pas bien. Soit on est en déphasage, c'est-à-dire que quand il a envie, moi j'ai pas envie, et quand j'ai envie, il a pas envie. Ou soit ça devient un objet presque de conflit au sein du couple, presque de chantage. Genre, en gros, elle me dit qu'elle veut bien, mais seulement si j'ai sorti les poubelles, quoi. Enfin,
d'accord.
Je caricature un peu, mais c'est pas
loin. Ou si on fait pas l'amour, je fais la gueule.
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Donc, ça, souvent, ça peut être un motif de consulte chez les couples.
Comment on fait à ce moment-là quand on se retrouve avec une... On ne peut pas effacer 15 ans, 20 ans de vie commune qui ont amené à une certaine lassitude. Comment on conseille un couple pour se reconquérir physiquement?
Alors, je pense qu'on les aide à dézoomer, en fait, en leur montrant que déjà, le désir dans un couple, c'est toujours compliqué à l'usure du temps. Première chose, ils sont loin d'être les seuls, ce qui est peut-être une bonne nouvelle pour eux. Et leur expliquer après que le désir, c'est pas un long fleuve tranquille et que c'est pas quelque chose qui reste toujours au top, qu'il y a des baisses parfois prolongées, plusieurs années, par exemple après un accouchement pour une femme, c'est quelque chose que je retrouve souvent, ou après le décès d'un parent, par exemple, c'est quelque chose qui peut donner un coup dur au désir. Et qu'il faut accompagner ces mouvements. Il faut vraiment pas essayer de forcément lutter contre. Il faut se dire, et en tant que sexologue, des fois je leur dis que une absence de désir pendant quelques temps, c'est pas forcément anormal.
Donc forcément, l'entendre d'un tiers, ça peut rassurer le couple.
Absolument.
Néanmoins, après, vous donnez des exercices concrets à réaliser pour les couples pour essayer de ranimer le désir.
Oui, alors on va dire qu'un des grands classiques, c'est ce qu'on appelle un peu le sunset focus en sexologie. C'est-à-dire que des fois, on va leur dire, pendant quelques temps, vous n'essayez pas d'avoir des rapports sexuel. C'est devenu un sujet trop conflictuel pour vous, trop compliqué. Donc, si vous voulez bien, on va passer un pacte ensemble pendant quelques semaines. Vous n'essayez même pas. D'accord? Et après que vous ayez passé cette période-là, vous allez pouvoir reprendre éventuellement des contacts, des massages si vous en avez envie, ou simplement vous toucher, vous prendre dans les bras. Et puis petit à petit, on va essayer de réinstaurer une sexualité. C'est un peu comme faire reset pour un ordinateur. Je ne sais pas si on fait encore reset.
Oui, c'est ça. Non, mais on efface tout pour repartir sur des bonnes bases.
On redémarre, exactement.
Ça marche.
Et ça marche souvent parce que du coup, on enlève tout ce facteur anxiogène de ce soir, il faut qu'on y aille, mais j'ai pas envie, ou j'ai envie, mais à la
fin. Oui, on va se coucher ensemble, mon Dieu, on y va.
C'est compliqué, ça enlève cette pression-là, et souvent ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est un peu comme si le couple développait une complicité contre nous, si je puis dire. Au bout de quelques semaines, des
on
fois, c'est...
On
y va, on lui dira pas, ou on lui dira, mais on y va, quoi.
Ah, c'est mignon.
Et là, c'est gagné. C'est-à-dire, quand le couple revient me voir en regardant le bout de ses chaussures...
En disant, on a craqué,
ouais.
C'est plutôt
là,
bon signe.
Là, je me dis, on est sur le bon chemin.
Et les hommes, quand ils viennent vous voir seuls, c'est pour parler de quoi?
Problème d'érection majoritairement. Alors souvent, ils disent problème d'érection, quand on creuse un peu, c'est pas toujours un problème d'érection. Des fois, c'est un problème de désir, hein, c'est en amont. Et puis, problème d'éjaculation, l'éjaculation précoce, qui est quand même un motif de consultation fréquent et qui est peut-être un tabou encore plus puissant dans notre société que le problème d'érection dont on parle un peu plus.
Alors comment vous dédramatisez un problème d'éjaculation précoce ?
Alors déjà, en leur expliquant que l'éjaculation, c'est normalement un réflexe qui, on va dire d'un point de vue développement de l'être humain, depuis que l'être humain existe, c'est un réflexe qui doit être rapide. Puisque lorsque on vivait un peu dans les forêts, qu'il y avait des prédateurs qui pouvaient nous bouffer, le coït était une situation de vulnérabilité. Donc du coup, il fallait très vite éjaculer pour reproduire l'espèce, mais ne pas se faire bouffer par un animal.
Donc c'était normal, finalement.
C'était normal, même si c'est un mot que j'aime pas trop, évidemment, oui, en tant que sexologue, mais on va l'utiliser.
Alors pourquoi on fustige les personnes pour qui ça arrive trop rapidement ?
Eh bien, en fait, parce que c'est un conditionnement social, alors qui est très bien, et je veux dire, c'est une très bonne chose de vouloir jouir davantage des sensations et puis aussi de permettre à ça ou son partenaire de jouir davantage de ses sensations. Mais ça s'éduque. Donc, on leur apprend des techniques, mais déjà, on les déculpabilise en disant, c'est simplement que votre réflexe primitif ancré, il est très puissant et c'est pas grave.
Et j'imagine que ça fait du bien. Ça fait du bien à entendre, justement. Ouais, ça déconstruit ce qu'ils entendent dans la société.
Des fois, je leur dis l'insulte, avant, au début du XXe siècle, c'était peine à jouir. Et c'était vraiment une insulte pour un homme. C'était, il met trop de temps pour jouir, c'est vraiment à peine à jouir.
Et l'addiction au sexe, vous l'abordez également ?
Oui, bien sûr, j'ai des consultations pour ça, aussi bien hommes que femmes, où les gens viennent me dire « je suis accro au sexe ». Alors, il y a parfois des phénomènes de mode, quand, on ne va pas citer des hommes politiques célèbres, il y a quelques années, qui ont eu ce genre de soucis, et les gens se disent « bah moi aussi, je suis concerné, moi aussi, je suis accro au sexe, moi aussi, machin ». Donc, on essaye de relativiser et de voir un peu simplement les critères diagnostiques.
Oui, parce que c'est une vraie souffrance, l'addiction au sexe.
Exactement.
C'est pas juste un excès de libido ou même quelque chose de l'ordre de la puissance. C'est une vraie souffrance.
C'est une souffrance qui est très personnelle, qui est vraiment sur l'intime, sur l'estime qu'on a pour soi. Et c'est vraiment cette souffrance-là qu'on va aller creuser. C'est pas des normes chiffrées. C'est pas parce que la personne va me dire « j'ai 3 partenaires par semaine, je m'en fiche complètement de son nombre de partenaires ». Ce qui va m'intéresser, c'est est-ce qu'elle souffre ? Est-ce qu'elle fait souffrir son entourage ? Et notamment son ou sa partenaire, s'il y a un partenaire ou une partenaire. Et est-ce qu'elle commence à avoir de moins en moins d'activités dans son champ social,
oui,
professionnel,
ça, oui.
Voilà, si vous mettez des faux rendez-vous l'après-midi pour pas aller au boulot, mais pour aller... Là, c'est des signaux inquiétants.
Oui, les symptômes vraiment d'une addiction. On se retrouve dans quelques instants avec vous, Patrick. On va s'intéresser à la sexualité des plus jeunes. À tout de suite sur RTL.
Tout savoir sur...
Le secteur aérien représente près de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Total Energy travaille depuis plus de 10 ans à leur réduction. Isabelle Patrier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice France de Total Energy. Quelles initiatives proposez-vous ?
Chez Total Energy, on investit dans la production et la distribution de SAF.
C'est-à-dire ?
SAF, c'est un acronyme anglais qui signifie carburant d'aviation durable. En fait, on le produit déjà dans nos raffineries en Europe, notamment à partir d'huile de cuisson usagée. Mmh. Et ensuite, on l'incorpore dans les carburants aériens. Ça permet de réduire progressivement les émissions de CO2.
Alors, vos défis aujourd'hui ?
C'est d'être présent sur toute la chaîne au service des acteurs de l'aviation. Les filières d'approvisionnement de ces fameux déchets, la transformation de nos usines pour cette production, la formation de nos collaborateurs à ces nouveaux métiers.
Avec comme ambition pour Total Energy ?
Notre ambition, c'est de devenir un producteur majeur de SAF pour accompagner nos clients du secteur aérien, avec 1,5 million de tonnes par an en 2030.
Et pour en savoir plus,
rendez-vous sur totalenergy.com, rubrique Transition énergétique.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
On peut penser que pour partir en vacances en famille avec une voiture neuve, on doit attendre des mois et des mois. Ou on peut choisir Dacia Jogger, disponible immédiatement chez votre concessionnaire pour profiter des vacances d'été. En 5 ou 7 places, avec motorisation hybride ou GPL, vous n'avez plus que quelques jours pour profiter d'offres très avantageuses sur une sélection prête à partir.
Offre particulière jusqu'au 30 juin seulement, dans la limite des stocks disponibles dans le réseau Dacia participant. Pensez à covoiturer.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Vous avez un nouveau message.
Allô patron, ils nous ont encore pris de court chez Lidl. En ce moment, le kilo de courgettes est à 1,39€ et même à 97 centimes avec Lidl Plus. On peut dire qu'elles en jettent, les courgettes. Et pour nous, c'est ratatouille.
97 centimes le kilo de courgettes chez Lidl avec Lidl Plus. Là, je suis vert, on est mal.
Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidlestmoinscher.fr. Catégorie 1, origine France. Offre valable jusqu'au 18 juin. Plus d'informations sur lidl.fr.
Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 e-tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990€ hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RTL.
Tout savoir sur la cardiomyopathie hypertrophique avec l'Alliance du cœur et le soutien de Bristol Myers Squibb. Inconnue des Français, la cardiomyopathie hypertrophique est une maladie cardiaque qui touche environ une personne sur 500. Laurence, vous en êtes atteinte, de quoi s'agit-il ?
C'est une maladie héréditaire. En fait, les parois du muscle cardiaque s'épaississent, ce qui peut gêner la circulation du sang vers le corps et entraîner des complications comme l'insuffisance cardiaque ou l'AVC.
Quels sont les symptômes ?
L'essoufflement. Monter des escaliers ou porter un pack d'eau devient insurmontable. Et aussi des douleurs dans la cage thoracique et même des pertes de connaissance.
Et que conseillez-vous ?
Si vous êtes essoufflé, consultez votre médecin. Les progrès récents peuvent améliorer notre quotidien et éviter des conséquences graves.
Merci Laurence.
Merci.
Plus d'infos sur bms.com/fr.
Faustine Bollard sur RTL.
We can be heroes. Héros.
On poursuit notre soirée sur RTL avec le médecin et sexologue Patrick Papazian et ce chiffre sur lequel je voudrais vous faire réagir. 2,3 millions de mineurs regardent du porno tous les mois. Incroyable chiffre, ça vous inquiète, docteur ?
Oui, ça m'inquiète forcément parce que si déjà c'était du porno de bonne qualité, on pourrait se dire que c'est de l'éducation sexuelle bien faite.
C'est quoi un porno de bonne qualité ?
Ça voudrait dire un porno inclusif, un porno égalitaire entre éthique, les sexes, éthique ou voilà, bon... je dis pas que ça serait bien de regarder ça à un jeune âge, mais ça serait déjà un peu mieux. Mais le problème, c'est que les contenus pornographiques sont souvent violents, voire ultra-violents, véhiculent tout un tas de messages qui sont justement, en général, très négatifs sur les femmes.
Oui, la soumission des femmes.
La soumission des femmes, bien sûr, sur la performance, avec des jeunes hommes que j'ai en consulte qui sont terrorisés en disant « mais moi, je vais jamais arriver à faire ça, quoi ». Voilà, dans les vidéos que je vois, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus que ce que je vais pouvoir faire moi.
Vous avez des patients qui viennent de plus en plus jeunes ?
Ah oui, 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 clairement, clairement.
Comment ça se passe dans l'esprit d'un jeune quand il voit une vidéo pornographique avant même d'avoir fait l'amour ? Déjà, on peut imaginer que ça détruit quelque chose ou ça va compliquer sa relation,
ses
relations
futures ? Je dirais pas que ça détruit, je pense qu'il faut relativiser là-dessus et pas être dans le dramatisme, mais ça va compliquer les choses. C'est-à-dire qu'il va falloir arriver à relativiser ces infos-là, à faire de la digestion de l'information et à contextualiser, à comprendre que c'est de la fiction. C'est un peu comme si, avant de passer le permis de conduire, vous voyez des cascades automobiles non-stop, quoi, je veux dire.
Ouais, c'est ça.
C'est de dire non, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça.
Il faut en parler absolument aux plus jeunes.
Ouais.
On entend dire aussi que les jeunes sont moins en couple qu'avant. Est-ce qu'ils ont d'autres problématiques qu'on n'avait pas forcément, nous, il y a quelques années ou quelques décennies ?
Ouais, c'est toujours délicat de faire des généralités, mais on est quand même avec des jeunes qui sont peut-être plus anxieux aujourd'hui, plus concernés, et ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Je veux dire, c'est pas que des mauvaises nouvelles. Je veux dire, quand on voit des jeunes qui nous font la leçon à juste titre sur l'environnement, sur notre responsabilité sociétale et tout, c'est vachement bien. Mais on a juste envie de se dire, nous, à leur âge, on était quand même un peu moins conscients de tous ces enjeux-là et plus obsédés par ce qu'on allait faire le soir avec notre petit copain.
C'est plus léger, quoi. C'est moins léger aujourd'hui. Hein.
C'est moins léger.
C'est moins léger.
Donc du coup, ils ont cette charge mentale-là et en plus, ils ont tout cru qu'il leur tombe dans le bec des représentations pornographiques. Donc il y a plus ce désir où avant, alors je parle vraiment comme un vieux schnock, mais il y avait cette idée de qu'est-ce qu'on aimerait voir, cette partie du corps en vrai, on l'a jamais vue, ou alors on l'a vue dans des magazines qu'on a chouré en haut des rayons. Enfin, tout ça, ça participait à la culture érotique. Aujourd'hui, c'est tellement facile, et non seulement c'est facile, mais en plus, des fois, ça vous est imposé. Et ça, c'est très inquiétant. C'est-à-dire que dans les cours d'école, les garçons qui ont bien compris l'effet que ça pouvait avoir sur les filles, des fois, leur disent « Hey, regarde sur mon téléphone ».
C'est-à-dire quel effet ça peut avoir sur des filles ?
C'est une agression, c'est une violence sexuelle. Quand on vous impose de voir un contenu que vous n'avez pas désiré, c'est comme envoyer une sex pic,
une photo sexuelle.
Une photo sexuelle, c'est une agression, c'est une violence, parce que vous ne l'avez pas sollicité.
Est-ce que sur les épaules de nos jeunes repose également toute l'ère MeToo, le consentement ? Moi, je connais un jeune qui m'expliquait que maintenant, avant d'avoir une relation sexuelle avec une jeune fille, il faisait une vidéo pour bien dire qu'elle était OK.
Oui.
Ce qui, évidemment, tue le romantisme et l'amour, quoi. c'est dramatique.
Alors oui, ça aussi c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Et là aussi, il faut être très prudent parce que à la fois c'est bien qu'il y ait tout ça. Évidemment, on va pas s'en plaindre. Ce mouvement MeToo, ces questionnements sur le consentement, sur le fait que le consentement peut être retiré à tout moment, que le consentement c'est pas un chèque en blanc pour faire tout ce que tu veux avec moi. C'est important que ça existe. Mm-hmm. Mais en effet, il y a un côté où les jeunes sont un peu tétanisés en disant mais du coup, est-ce que là je dépasse la limite? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Et là aussi, si on reprend nous nos références, je veux dire dans les booms, à un moment, fallait se lancer et faire un bisou sur la bouche au moment des slow, quoi.
Ouais, on est vraiment des vieux.
On est vraiment des vieux. Mais
Justin Loving You et on était ouais.
C'est ça, c'est ça. Et maintenant, ils osent plus. Alors peut-être parce qu'il y a plus des booms et des slow, mais ils osent plus. C'est-à-dire qu'il y a plus ce côté-là. Ils se disent mais là, si je fais ça, elle risque de me dénoncer le lendemain en disant il a fait quelque chose qui était contre mon consentement. C'est très dur de trouver cette limite-là.
Ouais, et puis comment on se rencontre également, parce qu'on se rencontre souvent sur des applications de rencontres. Est-ce que les jeunes hommes et les jeunes femmes, vraiment cette jeune génération qui viennent vous voir, ils ont les mêmes problématiques? Ou est-ce que vous avez vraiment vu une différence entre les deux genres?
C'est une bonne question. Moi, je crois qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes problématiques. Les jeunes hommes sont beaucoup sur la performance. C'est vraiment le mot qui revient tout le temps, d'une façon déguisée, mais c'est ça. C'est voilà, être plus viril, plus puissant, y arriver. Bon. Les jeunes femmes sont beaucoup sur le désir. Et je trouve de plus en plus de jeunes femmes qui me disent, au fond, je n'ai pas de désir sexuel. C'est-à-dire que j'ai l'impression, et donc elles vont parfois se dire, je suis asexuelle. Et donc on va après rentrer dans toutes les catégories possibles où elles vont essayer de se trouver. Mais j'en ai de plus en plus. Et ça, je trouve que c'est un signal quand même qui nous dit quelque chose de la société, du côté... le désir sexuel, c'est quelque chose qui devient presque interdit, compliqué, qu'on n'arrive plus à construire.
Et avec, vous venez de le dire, toutes ces catégories qui nous sont présentées, est-ce que je suis asexuel, est-ce que je suis bisexuel, est-ce que je suis binaire, est-ce que je suis je sais plus quoi, ça peut perdre aussi les jeunes un peu qui cherchent une identité et qui se disent je rentre dans aucune de ces cases, ou est-ce que je suis chiant parce que moi je suis juste hétéro ou homo?
Ça peut les perdre si on les enferme ou s'ils s'enferment même dans ces cases. Je crois que c'est très important de les écouter quand ils nous disent « je suis asexuel », c'est de dire « très bien, alors est-ce que vous avez compris ce que ça voulait dire, etc. ?» Ok, pas de problème. Mais c'est de leur envoyer le message que ça peut bouger et que c'est, ouais, ça c'est les définit à un instant T, c'est pas figé et que c'est pas grave, c'est pas ça qui est le cœur de leur identité.
Alors on va parler dans un instant de la sexualité des seniors. On peut faire l'amour à tout âge ?
À tout âge, il n'y a pas de limite au-delà de laquelle le ticket n'est plus valable.
À tout de suite sur RTL avec Patrick Papazian.
Héros avec Faustine Bollard jusqu'à 21h sur RTL.
Tea, my dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone says. He's a hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say.
I'm legal alien, I'm a English man.
No matter what they say.
Englishman in New York, on s'en lasse pas.
Faustine Bollard sur RTL.
We can be heroes.
Héros. De retour sur RTL avec notre héros ce soir, c'est le docteur Patrick Papazian, héros parce qu'il répond à toutes nos questions, évidemment. Mais des questions même tabous, puisque vous vous occupez de tous les patients, de tous les âges. On parle jamais de la sexualité des seniors. Pourquoi c'est encore tabou? Alors que tout avance dans la libération de la parole, mais ça, on a du mal.
C'est à la croisée de tous les tabous, je crois. En fait, le premier tabou étant le grand âge, qui reste un tabou coriace dans notre société. C'est vrai qu'on est quand même dans une société où le jeunisme est très en avant. Je veux dire, on essaye de garder une apparence jeune par tous les moyens. Où aussi, les gens âgés sont très vite mis dans des catégories. Il suffit de voir, par exemple, dans les faits divers, on va dire, à partir du moment où un homme a 50 ou 60 ans, on va dire un cinquantenaire, un soixantenaire, on le définit par son âge. Ça, c'est vachement intéressant. Ça nous dit beaucoup, je trouve, sur le rapport à l'âge dans la société. Et puis, parce qu'il y a cette idée que, bah non, un vieux, c'est pas séduisant, un vieux, ça plaît pas.
C'est moche. Un vieux, on se dit, un vieux, c'est moche.
Exactement. Mm. Et qu'il y a aussi ce côté, bah, une mamie, c'est mamie Nova, quoi. Je veux dire.
Oui, c'est ça, elle fait de la confiture, mais c'est, voilà. Ça nous dérange d'imaginer qu'elle puisse avoir une sexualité.
Exactement.
Et pourtant, il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent une sexualité active ou qui viennent nous en parler parce qu'ils en ont encore envie.
Oui, beaucoup. Alors ça aussi, ça a été objectivé par l'enquête INSERM, par exemple, sur la sexualité des Français, où même jusqu'à 80 ans, la sexualité, elle reste très active et très satisfaisante, du reste, ce qui est intéressant. Il y a un peu une marge d'escalier à 80, sans doute liée à la fois aux maladies qui
sont plus fréquentes. Une marge d'escalier ?
C'est-à-dire qui est descendue, en quelque sorte. Désolé, j'avais en tête les histogrammes dans ma tête.
D'accord.
Où en fait, là, on a un pourcentage beaucoup plus faible de personnes qui vont garder une vie sexuelle active et un bon niveau de satisfaction dans leur vie sexuelle.
Mais est-ce que ça peut être également tabou pour eux-mêmes ? C'est-à-dire ils ne s'autorisent pas à se dire qu'ils ont encore du désir.
Absolument, j'ai eu une consultation d'une femme de 80 ans qui venait très loin pour me voir, juste parce qu'elle me disait, voilà, j'ai perdu mon mari il y a quelques années, j'ai du désir, j'ai des petits copains que je rencontre sur des applis, mais mes enfants ne sont pas du tout à l'aise avec ça. Et mes copines ne sont pas à l'aise avec ça. Parce que mes copines me disent, mais attends, t'as la chance de plus avoir de sexualité maintenant que ton mari est parti.
Oh, quelle horreur.
Ça en dit long.
C'est triste.
Sur le rapport aussi de certaines femmes de cette génération-là, la sexualité.
Libérée de cette pression-là.
Tu es libérée, il faut dire qu'à l'époque, on n'écoutait pas beaucoup leurs désirs et leurs plaisirs.
Évidemment.
Et du coup, elle est venue me voir pour, en gros, me dire est-ce que je suis normal ou est-ce qu'il faut aller me faire un scanner cérébral, voir s'il n'y a pas un truc qui débloque, quoi. Est-ce que c'est une maladie d'avoir envie d'être dans les bras d'un homme et même d'avoir des rapports sexuels.
Et donc, il faut la rassurer sur le fait qu'elle soit dans une normalité en ayant du désir.
Exactement.
Il y a des seniors qui ont une sexualité dans les maisons de retraite, par exemple, dans les EHPAD, et qui le cachent, mais qui ont quand même ce besoin-là de s'épanouir.
Oui, bien sûr. Alors déjà, une sexualité solitaire, ce qui n'est pas rien. Parfois, il y a aussi des belles histoires d'amour qui se nouent, rien n'est fait pour ça. Alors, c'est vrai que c'est un vrai sujet dans les EHPAD, la question de l'intimité qui est réservée à ces personnes. Alors, il y a une expérience amusante en Belgique, un EHPAD qui a décidé de proposer à tous ses résidents un panier de plaisir, en gros. Et dans ce panier, il y a déjà un petit écriteau « ne pas déranger » qu'on peut accrocher à la porte de la chambre. C'est un détail, mais ça change tout.
Oui, bien sûr, parce que dans les EHPAD, parfois, on arrive, on pousse la porte et on infantilise également les patients, j'allais dire, vous voyez, non les personnes âgées.
Exactement. Et puis, il y a aussi des sextoys, des lubrifiants, tout un tas de choses qui sont proposées. Rien n'est imposé, tout est proposé.
Et les familles, elles réagissent comment? Ouais, en effet, parce que vous dites, il y a un tabou. On n'a pas forcément envie de savoir que son grand-père ou son père a reçu un panier de plaisir dans son EHPAD, quoi.
Le souci.
Et pourtant, c'est ça le souci, mais oui, justement.
Mais c'est souvent les familles, et c'est ce que nous disent les directeurs et directrices d'EHPAD, c'est que les familles souvent se plaignent quand, par exemple, un résident a une histoire sexuelle ou d'amour avec une résidente.
Ils se plaignent de quoi?
Ils se plaignent en disant, mais qu'est-ce qui se passe dans votre EHPAD? Non, mais c'est vraiment n'importe quoi.
Ouais, c'est la débauche.
Vous n'êtes pas à votre établissement, etc. Et c'est important d'essayer de les faire cheminer sur l'idée que leur parent n'est pas un grand enfant, que leur parent fait ce qu'il veut, et qu'il continue à avoir à mener sa vie, même à un âge très avancé. Parfois, c'est difficile aussi lorsqu'il y a des veuvages. Je veux dire, quand leur mère est veuve, le père a disparu et
on n'a pas envie
d'imaginer ça. Il faut aussi comprendre ça et ne pas être trop brutal, évidemment, avec les enfants.
Est-ce que vous pensez que c'est un enjeu de santé publique, la sexualité des seniors?
Ça va l'être de plus en plus, parce que de toute façon, la courbe démographique fait qu'on va être dans un pays de vieux et d'ultra-vieux, de gens qui ont envie d'être bien parce qu'ils ont de moins en moins de maladies invalidantes, et c'est une bonne nouvelle, donc qui ont la capacité de refaire leur vie à 80, 90 ans, de se rencontrer sur Tinder comme beaucoup de monde, et de s'amuser.
Oui, parce que derrière, évidemment, il y a du plaisir, il y a de la joie, il y a de la fantaisie, et c'est ça aussi qui est au cœur de ces questions de sexualité. C'est aussi le bonheur de vivre.
C'est exactement
ça.
La gourmandise de vivre, l'estime qu'on a pour soi, le fait qu'on va trouver son corps désirable, qu'on va apprécier des caresses parce que c'est des sensations agréables, là où en avançant en âge, le contact est quelque chose qui est de moins en moins fréquent. Et le simple fait de pouvoir être en contact avec quelqu'un, de sentir sa peau contre la peau de quelqu'un, c'est des choses extrêmement importantes qui se perdent chez les sujets âgés.
On se retrouve dans un instant, on va parler de la sexualité après une maladie. Il y a beaucoup de couples ou de patients qui viennent vous voir parce qu'ils ont besoin de se réconcilier également après une grosse épreuve. A tout de suite avec Patrick Papazian qui est donc notre sexologue ce soir.
RTL. Tout savoir sur...
Avec Fortunéo, préparer sa retraite tout en valorisant son épargne, c'est désormais possible grâce à son nouveau plan d'épargne retraite. Amandine Regissard, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes responsable des produits de placement chez Fortunéo. Un PER, c'est quoi exactement?
Alors, c'est une solution pour épargner pour la retraite et réduire ses impôts dès aujourd'hui.
Mmh.
Chaque euro versé réduit le revenu imposable jusqu'à 10%. Et l'imposition, elle, ne s'applique qu'au moment des retraits, à la retraite notamment.
C'est donc intéressant pour les indépendants.
Et pour tous ceux qui prévoient une baisse de revenus et de fiscalité à la retraite. Donc, pas mal de monde.
Et pourquoi choisir Fortunéo?
Déjà, notre PER est accessible dès 100 euros, sans frais d'entrée ni de versement.
Mmh.
Et côté rendement, pour le fonds en euros en 2024, c'est 3,20% net de frais annuels de gestion, hors prélèvements fiscaux et sociaux.
Merci Amandine.
Merci.
Plus d'informations sur le contrat sur fortunéo.fr. Fiscalité en vigueur au 1er janvier 2025, susceptible d'évolution. Ce produit comporte un risque de perte en capital. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.
RTL.
16 millions, c'est l'équivalent de la population de Paris, Bordeaux et Lyon réunis. C'est aussi le nombre de personnes dans le monde qui ont choisi Renault Clio depuis 1990. Et ce nombre continue d'augmenter, puisque Clio est la voiture la plus vendue en France en 2024. Renault Clio Génération est en édition limitée dès 16 900 euros. Portes ouvertes du 12 au 16 juin.
Source Renault, immatriculation mondiale de 1990 à 2024. Source 3 à data janvier 2025. Clio Génération SCE 65 heures option. Offre à particulier du 1er au 30 juin selon stock disponible. Voir Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Tout savoir sur...
Total Energy mise sur la production et la distribution de SAF, ou carburant d'aviation durable, pour aider à décarboner le transport aérien. On vous en dit plus dans un instant.
Cet été, c'est l'Italie, toute l'Italie, qui viendra à vous. Grâce à une merveilleuse, une prodigieuse porteuse de lettres. La porteuse de lettres, c'est le roman phénomène de Francesca Giannone. Au cœur des Pouilles, aux mille senteurs, aux mille saveurs, l'épopée d'une femme libre qui, par son métier de postière, va se retrouver au centre de toutes les passions d'un petit village. La porteuse de lettres, le roman numéro 1 en Italie, va donner à votre été toutes les couleurs, toute la beauté, toute la passion du mezzogiorno. Un roman Albin Michel.
Ça ira, chez Citroën nous on ira. Ça ira, nous ce qu'on veut c'est des prix bas.
pendant les journées révolutionnaires. Profitez de prix canon,
canon, canon, canon
sur tous nos modèles Citroën chez l'un de nos 1300 agents partout en France.
Ça ira, ça ira, ça ira. Des journées comme ça, on attendait que ça.
Citroën.
Offre valable jusqu'au 30 juin dans le réseau d'agents participants.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Faustine Bollard sur RTL.
We can be heroes. Héros.
Le docteur Patrick Papadzian est médecin sexologue et aujourd'hui, il fait une consultation un petit peu pour nous tous qui nous posons des questions. Vous publiez Le coquer du sexologue au cœur des consultations aux éditions de L'Opportun où on pénètre un petit peu dans votre cabinet et chacun peut se retrouver dans certaines situations. On parle évidemment du tabou depuis tout à l'heure, de la sexualité des seniors. Y a-t-il également un tabou autour de la sexualité des personnes malades ?
Un énorme tabou, c'est même ça qui m'a mené à la sexologie en fait. En tant que médecin, c'est que si on prend en France 20 millions de patients chroniques, hein, une personne sur trois à peu de choses près, et en fait les maladies ont un impact sur la sexualité pour tout un tas de raisons qu'on peut imaginer, un impact direct, un impact à travers les traitements, un impact aussi pour les conjoints, les conjointes des gens malades, et du coup ça n'est quasiment jamais pris en compte, y compris dans des maladies très fréquentes comme le cancer, par exemple, où jamais on va poser la question, alors jamais j'exagère, mais rarement on va poser la question à un patient ou une patiente, et dans votre vie sexuelle et affective, comment ça va, est-ce qu'on peut vous aider ?
Et ces personnes viennent vous voir parce que justement, elles ont besoin qu'on s'y intéresse, c'est aussi se connecter, rester connecté à la vie.
C'est ça. C'est souvent un lien avec la vie, avec le plaisir, là où elles en ont moins par les traitements qu'elles reçoivent ou la manière dont leur corps est traité par la médecine. Par exemple, je pense à cette patiente qui avait eu un cancer du sein, qui a été en rémission, donc quasiment guérie, et qui est venue me voir en me disant « Bon, c'est génial, les oncologues ont fait un super boulot, je suis guérie si j'ai bien compris, etc. Entre-temps, mon mari s'est cassé avec une autre, ma famille a explosé en vol, mon opération de reconstruction, elle est pas géniale, et franchement, l'aspect de mon sein, je suis pas très satisfaite.
Qu'est-ce que je fais, quoi ?
J'ai plus aucune estime de moi, qu'est-ce que je fais ?»
Et en fait,
c'est vachement dur, mais le simple fait qu'elle puisse franchir le pas d'aller consulter, de travailler sur ces sujets-là, on peut avancer ensemble.
Mais alors justement, comment on avance ? Comment on accompagne une patiente qui vient vous dire ça ?
Déjà, c'est en l'écoutant, bien sûr, et puis surtout en essayant d'être très pragmatique, je dirais, de l'aider à résoudre les problèmes. Par exemple, quand il y a des problèmes de douleur au moment des rapports sexuels, il y a des choses qui existent.
D'accord.
Depuis des crèmes, ovules, etc., qu'on peut mettre localement, jusqu'à un certain type de laser qui permet de traiter ce genre de problème.
Le laser, c'est quoi, pardon ? Quel genre
en fait, c'est ce qu'on appelle le laser MONA, qui est un laser pulsé, qui est souvent recommandé aux femmes qui, par exemple, ont eu un traitement par chimio ou pour, par exemple, un cancer du sein, et qui permet de retrouver une bonne lubrification au niveau vaginal.
D'accord.
Là où souvent le vagin pâtit des chimiothérapies.
Qui réveille le corps.
C'est ça.
On peut dire ça comme ça. Ça fait mal ?
Alors non, ça fait pas mal du tout. C'est quelques séances, les patientes vous racontent ça et on se prend souvent des fous rires parce qu'elles vous disent c'est quand même juste génial le mec qui arrive avec son instrument qui ressemble un peu à un sextoy et qui s'approche avec des lunettes genre Star Trek. Vous avez les mêmes lunettes et on se regarde, ça va, ouais. Bon, on essaye de pas rire. Donc ça se passe plutôt très bien et c'est très anodin, on va dire, en termes de sensations. Mais c'est pas remboursé, c'est à la charge.
Et ça coûte cher ?
C'est plusieurs centaines d'euros.
Par séance ?
Par séance, et c'est minimum de 3 séances, et souvent il faut refaire une séance par an.
C'est terrible, c'est un budget pour retrouver ça.
C'est pas dans le panier de soins. Ouais.
Est-ce que toutes les maladies ont un impact sexuel d'une manière ou d'une autre ?
Alors oui, vraiment c'est simple, toutes. Et ça vraiment, je le dis, je dirais d'expérience, c'est-à-dire que tous les patients que j'ai vus, on a tout le spectre des maladies représentées. Et si on les prend une par une, alors les maladies cardiovasculaires évidemment, les maladies neurologiques évidemment, pour des raisons purement anatomiques et physiologiques, les maladies psychiques aussi, de par leur traitement aussi, qui ont des conséquences sur la libido, mais aussi par exemple des maladies comme des maladies infectieuses. À un moment, à l'époque du Covid, on parlait des problèmes d'érection avec le Covid long, et j'ai des patients qui ont des séquelles de Covid long, type de dysfonction érectile.
C'est vrai qu'on en a parlé à l'époque, vous avez raison.
Voilà, donc je veux dire, vraiment toutes les maladies peuvent avoir un impact.
Et en général, celui qui vient est celui qui a été malade ou c'est le conjoint qui vient expliquer qu'il n'a plus de rapport avec cette personne, ou peut-être qu'il ne le regarde que comme une personne malade ou comme avec le regard d'un aidant. Ce qui vient en majorité vous voir ?
Alors, les deux cas de figure, c'est très juste, et quand le conjoint vient, en général, c'est pour dire j'en ai marre d'être dans le rôle d'infirmier ou de soignant. C'est-à-dire que j'ai pas épousé cet homme ou cette femme pour être vu comme un aidant simplement. Il n'y a plus une dimension érotique entre nous. Et du coup, ça, c'est en général bon signe quand ils viennent nous voir, parce que ça veut dire qu'ils ont envie de bouger là-dessus.
Ouais, c'est envie de bouger.
Ceux où il y a un problème, c'est ceux qui ne viennent pas nous voir, malheureusement, et qui, du coup, s'enquistent dans cette relation de soignant-soigné qui, parfois, ne les satisfont pas. Des fois, ça peut être satisfaisant. Il y a des couples qui vont se reconstruire là-dedans et qui sont très heureux comme ça.
Est-ce que vos collègues médecins sont sensibles à ces enjeux ? Est-ce qu'il y a de la solidarité entre un oncologue qui peut peut-être conseiller de venir vous voir, ou il y a même un tabou autour de la sexologie ?
Alors, de plus en plus, ils se sentent concernés par le sujet, mais je dirais qu'en tant que sexologue, on passe notre temps à prendre notre bâton de pèlerin et à essayer de les acculturer à cette notion de l'importance de la santé sexuelle pour leurs patients. Mais je pense à un oncologue il y a quelques années, à l'époque, je travaillais dans un service d'oncologie, j'avais donc un exercice pour les patients avec un cancer, et il m'avait dit une fois en me croisant, mais en fait, j'ai toujours pas bien compris, en gros, ce que tu fous là, quoi.
C'est vrai?
Que pourquoi il y a un sexo Mais c'est vraiment authentique. Et du coup, il a fallu que je lui réexplique gentiment. Bah, tu sais, le cancer, ses traitements ont un impact. Tu t'en rends peut-être pas compte parce que tu poses pas la question au patient.
Oui, mais les gens, ils doivent se dire, il a dû se dire, c'est anecdotique. On mène une bataille pour sa vie. C'est du détail, la sexualité.
C'est un détail. Alors que parfois, pour les gens, c'est le tout, c'est l'essentiel.
Et ça participe à la bataille qu'on mène.
Ah, mais exactement. Mmh. Et je pense notamment à une patiente, j'en parle dans le livre, qui avait perdu ses cheveux avec une chimio et qui est venue me voir pour ça en disant, je ne me sens plus femme. C'est un drame pour moi. Et c'est vraiment une patiente avec qui on a noué une relation très sympathique parce qu'elle était vraiment très affectée par ça. Et ses cheveux ont repoussé, ce qu'elle n'arrivait pas à y croire au moment où ses cheveux étaient tombés. Mais ils ont repoussé, plus beau qu'avant, comme souvent. Et depuis, on a gardé ce rituel où tous les ans, on va se faire un resto ensemble pour fêter la repousse de ses cheveux. Et on adore ce moment-là et on pense à toutes les femmes qui sont en train de vivre ça.
Évidemment, et on les embrasse. On se retrouve dans un instant. Je voudrais qu'on parle de l'homme derrière le sexologue. À tout de suite sur RTL.
RTL. Que vous soyez plutôt économie avec François Langlais.
Le pétrole contenu dans le baril ne représente qu'une fraction du prix du carburant. En fait, un litre d'essence, c'est un litre d'impôt.
Ou santé avec Jimmy Mohamed.
Non seulement la rougeole est très contagieuse, mais la période durant laquelle vous pouvez la transmettre est également très longue.
Votre grande tranche d'infos,
c'est RTL Matin, 7h-10h.
À l'écoute des pros avec Citroën. Comment Citroën répond aux besoins des professionnels au quotidien ? Quels services et véhicules pour répondre à leurs attentes ? Réponse dans un instant.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Du croustillant ?
Ah oui, en ce moment, les 4 baguettes croustillantes dont une offerte sont à 2,85€.
72 centimes la baguette ! C'est une bouchée de pain ?
Bah on est mal.
Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidlestmoinscher.fr. 250 grammes, 2,85€ le kilo pour 4 baguettes, 3,80€ le kilo pour une baguette. Cuit sur place dans les supermarchés disposant d'un point chaud. Offre valable jusqu'au 18 juin. Plus d'informations sur lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Il y a des choses que je n'ai jamais dites à ma famille. Mon fameux plat maison vient de chez le traiteur. Je leur fais croire que je deviens sourde pour qu'ils arrêtent de me demander des choses. Et non, le chat n'est jamais parti en vacances.
On peut ne pas tout dire à ses proches. En revanche, leur dire qu'on est donneur d'organes, c'est important. Le don d'organes sauve des vies. Alors, rappelez à vos proches que vous êtes donneur. Ceci est un message de l'Agence de la biomédecine, agence relevant du ministère de la Santé.
Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 E-Tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990€ hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Faustine Bollard sur RTL.
We can be heroes.
De retour sur RTL avec le docteur Patrick Papazian qui est médecin et sexologue. Il accompagne les Français dans leur épanouissement sexuel, ce qui ne doit pas être une mince affaire. Est-ce qu'il y a des moments où vous doutez ? Il y a des récits qui vous bouleversent ou je ne sais pas, où vous doutez de ses capacités pour aider autrui ?
Plein de moments et C'est plutôt rassurant, je crois, en fait. Oui. Parce que quand on commence à se dire qu'on va tout pouvoir régler et tout absorber de la souffrance du monde, c'est, je pense, là où il faut un peu s'inquiéter de son état psychique.
Parce qu'on doit avoir envie de sauver ces gens aussi qu'on reçoit.
Mais bien sûr, la plupart des gens que je reçois sont hyper attachants, des récits de vie qui, moi, me passionnent, dans lesquels je plonge avec délice. Et parfois, j'ai du mal à m'en défaire. Hein. J'y pense le soir, le week-end, j'en parle à mon chien, voilà, pour essayer de relativiser parce que ça m'affecte. Et c'est important aussi de pouvoir prendre de la distance avec ça. C'est aussi important, je pense, en tant que sexologue, d'être supervisé.
Vous avez un psy vous-même ?
J'ai un psy moi-même, que je vois régulièrement en grande partie pour pouvoir un peu débriefer de tout ça et vider mon sac.
C'est difficile d'avoir par exemple des patients qui viennent vous voir et puis qui arrêtent de venir vous voir, qui arrêtent les consultations et vous ne saurez jamais si les choses se sont arrangées ou est-ce que vous le vivez comme un échec ?
Pas comme un échec parce que des fois quand ils arrêtent, c'est que justement le problème a été réglé. Quand c'est un problème qui n'est pas trop profond. Mais des fois, on aurait envie de savoir. On aurait envie de prendre des nouvelles. Mais évidemment, on ne le fait pas. On ne va
humain,
pas rentrer dans l'intimité des gens.
Je vais l'envoyer un texto. Alors, ça va mieux ?
C'est ça. Mais des fois, les patients le font. Et ça, c'est plutôt sympa. Hein. J'ai une patiente que j'oublierai jamais qui avait pris rendez-vous avec moi et qui est venue, en gros, me dire « Voilà, en fait, moi, ça y est, tout va bien, c'est réglé. Mais là, on a donc 30 minutes. Et ben, je vous les offre. » Allez vous prendre un café, allez vous détendre au relayage de l'hôpital. C'est pour vous, c'est 30 minutes pour vous remercier. J'avais trouvé ça...
hyper mignon.
Hyper adorable.
Vous aviez fait quoi alors ?
Qu'est-ce que j'avais fait ? Ben non, on avait discuté ensemble,
bah oui,
en prenant un café.
Vous avez dit quitte à prendre un café, autant le prendre ensemble.
Voilà, j'avais tellement envie de savoir un peu comment cette patiente vivait à ce moment-là.
Vous êtes en couple depuis longtemps. Est-ce que ça influence votre travail d'avoir connu peut-être des hauts et des bas dans votre histoire ?
Forcément, ça l'influence. Ça m'a sans doute donné des clés pour mieux comprendre ce que c'est qu'un couple qui dure,
oui,
avec toutes les difficultés que ça représente. J'ai envie de dire les renoncements parfois, et tout ça, ça fait partie des choses. Hein, c'est normal.
Quoi les renoncements dont vous parlez ?
D'un fantasme de couple où c'est voilà, le prince charmant, la princesse, et où en permanence vous avez un désir au sommet, où sexuellement c'est toujours l'extase, où vous n'avez jamais envie d'aller voir à côté, où... Gère tous ces fantasmes dont on nous berce depuis notre plus tendre enfance, littéralement dans les contes de fées, et où le principe de réalité vous montre que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe si on veut durer.
Ça, c'est un tue-l'amour.
Je pense, c'est-à-dire qu'en gros, on fait croire aux gens que tout ira bien, et c'est toujours inquiétant de dire aux enfants « tout va bien aller », parce qu'ils sont forcément déçus. Il faut parfois dire aux gens « non, il y aura des pépins, il y aura des choses que t'as pas prévues, mais c'est pas grave, t'es fort, tu vas y arriver ».
Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un ou à un couple qui hésite à consulter un sexologue ?
Que c'est normal d'hésiter, que c'est tout à fait compréhensible, qu'il faut y aller vraiment quand on se sent prêt, motivé, il ne faut pas se forcer. Vraiment vous y allez parce que votre conjointe vous fait du chantage pour que vous y alliez, par exemple, c'est sûrement pas la bonne façon d'y aller. Il faut y aller parce qu'on a envie de se faire du bien, d'avancer, et puis également bien choisir son sexologue.
Oui, mais comment on choisit bien ?
Déjà, en tapant pas sexologue sur Google, j'ai envie de dire.
Ouais.
Parce que la plupart sont des personnes qui n'ont pas de formation. Alors, il y en a peut-être dans le tas qui font du bon boulot, mais le problème, c'est qu'on sait pas.
Alors, comment on fait ? On va voir une...
Alors, il y a des sites, de sociétés savantes de sexologie. Il y a le fait de regarder un peu le cursus de la personne. C'est quand même accessible en général, voir quelle est sa formation. Et puis, vous pouvez demander aussi, il faut pas hésiter à appeler le secrétariat ou le service, et demander, dire « Est-ce que je peux savoir si cette personne est médecin, psychologue, et quelle formation elle a fait ?» C'est vraiment, moi je pense qu'il faut être très décomplexé par rapport à ça.
Alors, on va parler de votre petite assistante, Mrs. Robinson, qui est donc avec vous. Je me demandais depuis tout à l'heure si la présence d'un cocker et d'un animal, on parle souvent de la thérapie parlée à travers les animaux, est-ce que quelque part sa présence peut-être rassure ? On est moins mal à l'aise quand on a, on va dire, un cocker à côté de soi qui roupille. Quelque part, on peut être, c'est plus doux comme accueil, non ?
Très certainement. Je pense que vraiment, pour les consultations où elle est présente, ça aide beaucoup. Parce que déjà, ça crée une petite connivence. Et finalement, ça permet aussi au patient ou à la patiente de voir un peu de mon intimité. Je lui dis des choses.
Vous donnez quelque chose.
Voilà. Et donc, j'ai pas ce côté froid en blouse. Voilà. Et puis, parce qu'elle est hyper affectueuse. Donc, le simple fait qu'il y ait un contact tactile, que la personne puisse la caresser pendant l'entretien, lui poser la main sur la tête, ça aide, je pense, à libérer la parole, à s'épancher.
À créer du lien.
Ça joue. Ça crée du lien.
Et à rassurer. C'est la narratrice de votre livre, donc Le cocker du sexologue. Elle raconte tout ce qu'elle vit quotidiennement. Pourquoi avoir écrit ce livre ? C'est quoi le message, outre le fait de nous confier tout ce que vous nous racontez depuis tout à l'heure ? C'est une envie humaniste aussi ?
J'espère. En fait, à travers la diversité des situations qui sont abordées et la bienveillance de mon cocker...
Hein, et l'humour aussi.
J'espère, merci. C'est vraiment pour faire passer le message que la sexualité normale, ça n'existe pas. C'est un fantasme collectif. Il n'y a pas de normalité. Il y a simplement que des sexualités qu'on va vivre plus ou moins bien et on va chacun tracer son chemin dans sa vie sexuelle et parfois avoir besoin de se faire aider dans ce chemin-là. Mais la question, c'est pas la normalité, la question, c'est juste d'être bien. Et c'est déjà formidable.
Et c'est une jolie conclusion. Merci beaucoup, Dr Patrick Papazian, pour votre précieux témoignage. Merci infiniment
Merci à vous.
D'avoir répondu à toutes nos questions.